petites bouteilles de propane réutilisables et échangeables.
Mini Propane, votre allié écologique pour vos activités de plein air.
Ah, les amis, si vous trouvez qu'à Québec, la température est pas si pire que ça, on a un chroniqueur chasse-pêche qui, lui, se prépare pour aller faire un tour dans un pays peut-être un peu plus chaud que le nôtre. Je sais pas, niveau température, qu'est-ce que ça peut être demain, mettons, Pascal, tu pourrais vérifier ça, parce qu'il va être là demain soir, si je me trompe pas, ou peut-être samedi, il me le dira. Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche, qui est là. Salut, mon ami!
Salut, gang! Comment ça va, vous autres?
Ça va bien? Bon, je vais t'avouer qu'on est un peu jaloux de un savoir que tu pars pour l'Afrique en voyage de chasse et d'excursion.
Surtout à 27 degrés, 25 degrés, 26 degrés pour les prochains jours.
On le flush-tu? On veut pas y parler.
Non, on y va avec lui.
Ouais, c'est ça.
On veut pas y parler.
Je suis pas sans vous avoir offert des places là-bas. Je suis pas sans vous avoir offert des places. Puis honnêtement, il en reste pour 2025. Il en reste quelques-unes pour 2024, là, mais pas avec nous autres. Mais 2025, il reste des places accompagnées avec nous autres. Fait que ceux qui veulent venir profiter de ça, regardez dehors présentement et dites-vous que samedi, moi, je vais rentrer sur le lodge avec un beau gros soleil, avec le bruit des oiseaux là-bas, les odeurs de fou, avec les animaux exotiques alentour. Puis je vais me faire servir un de ces steaks samedi soir au lodge. Là. Ça va être incroyable.
Moi, j'y vais si tu me promets qu'on embarque CV dans la boîte du pick-up et on avance.
Franchement!
J'ai des bonnes nouvelles pour toi, on est toutes dans la boîte du pick-up.
Arrête, il va dire on va la mettre sur le top du char. Là.
Ouais, c'est ça.
Parce que pour vrai, les camionnettes là-bas, souvent, tu parlais avec un bon ami à moi il y a quelques instants, Mathieu Thomassin, que je salue. On se promène avec des Toyota Hilux là-bas, qui est un petit peu l'entre-deux, si tu veux, entre les camionnettes pleines grosseur puis le Tacoma que tu as essayé.
Okay.
Donc, les Toyota Hilux. Puis dans la boîte en arrière, ben, c'est vraiment comme aménagé avec des bancs. Des appuis, t'es vraiment t'es première des choses très confortable, c'est très coussiné, puis on est en sécurité aussi à l'arrière dans la camionnette. Le seul qui est dans la camionnette, c'est le tracker qui nous chauffe. Le guide est avec nous autres dans la boîte, on est tous dans la boîte sur des bons bancs confortables. Puis écoute, enjoy le soleil, là. Exact. Une fois de temps en temps, des points d'ombre.
Là, vous partez avec combien de personnes?
Et je pense que cette fois-là, on part avec 16 ou 17 personnes, c'est pas, si on franchit pas le 20, là.
OK. Puis tu t'amènes quoi hein, quand tu t'en vas dans un voyage de ce type-là? Il me semble que tu n'as pas besoin de grand-chose là-bas.
Vraiment pas grand-chose parce que dans les forfaits qu'on a, nous autres, là-bas, qu'on a négociés, ils lavent notre linge à tous les jours. Fait que tu n'as pas besoin d'amener une grosse valise. Là. Ton linge est lavé là-bas à tous les jours, plié, mis sur le bout de ton lit. Tu retires ça dans le panier de linge sale le soir.
Mais pas juste deux kits, là, Martin.
Ben, on s'amène un 3-4 kits, dans le sens que des jeans pour être sur le lodge le soir tranquille à l'entour du feu puis se raconter des peurs. Mais pour la chasse, on s'amène deux petits kits de chasse. C'est pas comme ici, là. On s'habille pas en camo. Là. C'est des pantalons de plein air avec une petite botte à la cheville, si tu veux, puis un t-shirt, de quoi de très léger, qu'un chapeau sur la tête. Fait que, écoute, à part de t'amener un petit surplus de bas puis de bobettes pour changer le midi puis passer dans la douche vite parce qu'il a fait chaud, le reste, là, t'amènes une très petite valise ou une grosse valise. Parce que tu vas vouloir ramener des souvenirs de là-bas. Quand on arrête dans les shops à souvenirs, il y a du beau stock en artisanat. Là.
Bon, tu vas-tu penser à nous autres un peu?
Ben, je peux faire ça.
Ouais. Puis là, la semaine prochaine, peux-tu nous parler en direct de l'Afrique?
Ben oui.
Oh, yes!
Oh, ça va être plaisant, ça.
C'est très cool.
On peut s'organiser très certainement. Ça veut dire, on a un 6 heures, veut dire une heure. On check ça. À la limite, je me réveillerai. Là, on s'organise quelque chose définitivement.
OK, cool.
Au pire, ouais, c'est ça. Au pire, on va s'organiser, OK? On a plein de, on a plein de trucs à se donner.
Il est 7h33 là-bas. Là, fait que c'est sûr et certain qu'on peut se parler. Oh, oui. On fait ça en direct. La seule dépendance qu'on va avoir, c'est que là-bas, des fois, il y a ce qu'on appelle du load shedding. Quand il n'y a pas assez d'employés à la centrale d'électricité, il nous coupe le courant.
Oui, il reste pas avec ça.
Ça s'appelle du load shedding. Il y a tellement. La corruption là-bas est tellement présente au niveau du gouvernement. Il y a tellement de contrats qui sont donnés aux beaux-frères, aux chums, etc. qu'il y a des moments dans l'année où est-ce qu'ils doivent allumer l'électricité une ou deux heures sur l'heure du midi, puis une ou deux heures la nuit, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire rentrer tout le monde à la centrale électrique. Fait qu'ils font ce qu'on appelle du load shedding. Fait que si on n'a pas ça, qu'on a accès au full Wi-Fi. Là-bas, écoute, sur le long de la rivière Limpopo, le fleuve Limpopo, à la frontière du Zimbabwe, t'as du signal 5G plus qu'à Val-Belair ici.
C'est fou, réel.
Oh oui.
Wow.
Oui. C'est quand même capoté, là.
Ouais. Hey, toi et moi, avec Pascal et Tom, on a parlé quelques fois de ce qui se passe au parc Michel-Chartrand, le parc Michel-Chartrand qui est à Longueuil. Une population de cerfs qui est là. Puis on s'est dit, oh boy, il commence à avoir des problématiques avec cette population-là. On avait pensé les abattre, d'ailleurs, parce qu'il y avait, on n'était pas capable de les déplacer, parce que sinon, on nous disait que ça allait faire mourir les cerfs. Mais nous, on allait les abattre. Là, ce que toi, tu me mentionne, c'est qu'actuellement, la population de cerfs qui est dans ce parc-là, Michel-Chartrand, montre des signes de dépérissement, puis c'est dans un article du Devoir qu'on peut apprendre ça.
Bien, définitivement. Puis cet article-là, j'y ai accédé en lisant l'autre article qui dit que Montréal aussi a pris la décision d'abattre des cerfs dans l'est de l'île parce qu'ils ont aussi une problématique dans le parc de la Pointe-aux-Trembles. Donc, évidemment, les cerfs qui traversent la rivière des Mille-Îles quand c'est gelé puis qui populent le parc. Augmentation de 253% de la population dans le secteur, ce qui est dramatique. Plus de 86 collisions avec des véhicules qui ont été enregistrées. Puis tu sais, à toutes les fois qu'on a parlé de ce dossier-là, je te dis une chose bien importante. Ce genre d'événement-là, là, il va se multiplier dans le temps puisqu'on, peu à peu, on retire les efforts de récolte animalière. On retire le chasseur comme unité de gestion. On se ramasse avec des surpopulations on ne veut pas contrôler. Puis là, ben, on a ce qu'on a dans le parc Michel-Chartrand présentement, des cerfs de Virginie qui sont dans un secteur où est-ce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde. Parce que la capacité de soutien du milieu, à un moment donné, est atteinte. Fait que là, les photos qu'on voit passer, c'est des cerfs qui sont rachitiques, qui ne sont pas en bon état de santé. Puis on a des citoyens qui continuent à se battre pour garder ces cerfs-là en vie, qui vont mourir de faim ou de maladie ou de tares qui sont causées par la congénitalité ou encore frappés par une voiture. Puis il s'est passé la même chose dans le parc du Mont-Saint-Bruno, si je ne me trompe pas, la CEPAC a abattu, puis ça a passé un petit peu plus sous silence, a abattu quelques 200 cerfs dans ce secteur-là pour régulariser le cheptel. Là, ça arrive dans l'est de Montréal. Hein. On s'arrive dans l'est de Montréal avec une surabondance qui est majeure. On devrait avoir dans le coin de 4 à 5 chevreuils au kilomètre carré. Présentement, on a 46 individus par kilomètre carré, ce qui est énorme et ce qui débalance complètement l'écosystème. Ça met en danger les autres animaux parce que le brou de chevreuil, ce qui mange les petits arbustes au sol, c'est aussi les espaces de nidification pour plusieurs oiseaux qui n'ont plus leur espace de nidification. Donc, quand tu ne régularises pas un cheptel comme ça, ça devient dangereux pour le cheptel proprement dit, pour l'environnement, donc l'écosystème, le biotope qu'il y a là. Donc, pour les autres animaux, puis là, on voit au-delà de 86 collisions qui sont enregistrées dernièrement avec des véhicules et ces cerfs-là. Et ça, je l'ai dit, et je vais le répéter, si vous trouvez ça dégueulasse, attachez votre ceinture parce que dans les prochaines années, ça va se multiplier. Là, on fait un appel d'offres, on cherche des tireurs professionnels pour venir mettre à mort ces cerfs de Virginie-là qui vont être remis heureusement, à la filiale de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui est chasseur généreux pour être donné au moins bien nanti.
Okay. On va récupérer la viande, là, c'est ce que tu dis.
Exactement, on va récupérer la viande. Ça nous le permet aussi quand on fait affaire avec des chasseurs professionnels ou des tireurs professionnels, parce qu'on va tirer de façon à ce que ce soit efficace, rapide pour la mise à mort d'un animal, mais qu'on va conserver quand même une bonne quantité de viande. Mais ça, là, je vous le dis, là, restez devant votre écran, là, ça... Plus vous allez mettre des efforts pour diminuer les efforts de chasse, plus vous allez mettre de pression, plus ce genre de situation-là va se produire. On va devoir, à la place de laisser des gens qui vont chercher un cerf de Virginie pour nourrir leur famille, on va avoir des batchs comme ça où est-ce que des chasseurs professionnels vont rentrer dans des endroits et vont en tuer 140. Ça va arriver de plus en plus. Puis plus il y a de pression contre la chasse, plus ça va arriver. C'est l'équilibre naturel des choses. Si l'homme n'est pas là comme prédateur principal pour régulariser, il y a des problèmes qui rentrent. On était moins dans le parc Michel-Chartrand. Là, les chevreuils sont vraiment pas en bon état. Ils manquent de nourriture. Ils dépérissent carrément.
Est-ce que, oui, puis la raison pour laquelle on en est là, c'est qu'on a retardé ça pendant des années et des années, puis on a toléré ça. Dans la nature, quand les chevreuils peuvent se promener librement puis sortir de leur du territoire où il y a une surpopulation, bien, il y a d'autres choses qui arrivent. Ça peut être des loups, comme ça peut être des coyotes aussi, puis là, la chasse rentre dans la danse. Mais à Longueuil, j'imagine que ces petites bêtes-là, qui sont supposées être les prédateurs de ces grosses bêtes-là, elles sont un peu hésitantes à aller au parc là, pour aller chercher un peu de nourriture.
Bien, de toute façon, ils sont enclavés. De toute façon, avec les dernières constructions qui se sont faites sur le tour du parc Michel-Chartrand, il n'y a plus de bande végétale de passage.
Oui, il y a un genre de truc qui est gros comme un trottoir pour les faire passer, mais c'est pas suffisant, Martin.
Non. Les coyotes ou encore des loups, si on serait sur l'autre rive, ne passeront pas là définitivement. Ça prend des grandes bandes de passage végétales qui doivent être respectées entre les îlots de verdure. Si on ne respecte pas ces bandes végétales-là et on va les couper avec des autoroutes ou encore on va les couper avec des condos ou quoi que ce soit, bien, tu as les deux problèmes qui arrivent. Souvent, tu vas avoir une surpopulation en prédateurs. Souvent, tu vas avoir absence de prédateurs. Puis quand tu as absence de prédateurs, bien là, tu n'as plus de régularisation naturelle qui se fait dans le troupeau. Le troupeau va surcroître, puis il va écraser, il va faire de la compétition alimentaire aux autres espèces animalières qui sont sur place, puis il va essentiellement... Le cheptel que tu connais va tomber, va se ruiner complètement, puis tu vas avoir tué tous tes chevreuils en essayant de les protéger. Sauf qu'ils vont être morts dans la souffrance, dans la malnutrition, dans l'état génétique puis dans la maladie, au lieu d'avoir nourri des gens comme l'équilibre naturel des choses le veut depuis que ben, c'est une des raisons pour lesquelles on est en vie aujourd'hui. On s'est un jour nourri en allant à la chasse et ça devrait être encore une activité qui devrait être présente, surtout au moment où est-ce que l'homme décide de cloîtrer des animaux dans des îlots qui sont concis, desquels ils ne peuvent pas se sauver. Tu n'as pas le choix d'appliquer une certaine gestion en régularisation de cheptel, et on ne le fait pas parce que les chasseurs sont des grands malades, psychopathes, violents, sauf qu'on trouve ça plus sweet puis plus cool de les laisser mourir de faim ou de maladie ou fessés par un char avec la panse ouverte sur le bord d'autoroute. C'est un peu ma vision de la chose.
Ouais. Toi et moi, on a commencé les chroniques chasse-pêche il y a de ça plusieurs années, puis tu m'avais... en fait, t'aimais dire aux auditeurs qu'à partir du pont de Québec jusqu'à l'océan, ben, c'était possible de pêcher sans permis de pêche, puis tu te faisais un point d'honneur à dire aux gens, faites-vous pas pogner en dehors de ça, pas de permis de pêche parce que vous allez avoir des problèmes. Donc, je pense que c'est rentré dans la tête des gens. Mais si je veux aller, je ne sais pas moi, aux États-Unis, ou si je veux aller avec toi, mettons, en Afrique, ça fonctionne comment les permis? Puis où est-ce que je peux prendre ces informations-là? Y a-t-il des sites qui sont spécialisés pour ça?
Bien, absolument. Puis c'est ce qui rend la chose de plus en plus facile. Maintenant, tu n'es pas laissé à toi-même. Il y a tellement d'agents québécois qui maintenant proposent des trips un peu partout dans le monde que c'est super facile de les trouver. Puis au pire, communiquez avec nous autres, on va vous mettre en lien. Mais je pense très rapidement, nous autres, on va en Afrique, il y a 3-4 agents au Québec qu'on pense à Mario Huot, qu'on pense à Michel Langlois, qu'on pense à Patrick Daigle, qu'on pense à Majedji. Il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui sont spécialisés là-dedans, qui ont des forfaits qui peuvent vous amener aux États-Unis ou un petit peu partout ailleurs. Les États-Unis, c'est rendu super facile. Puis en plus, aux États-Unis, si par exemple, toi, comme Québécois, t'appliques au tirage au sort pour, le Wapiti au Texas, c'est presque sûr que tu vas sortir de un. De deux, il y a une tonne d'agents qui vont tout organiser ton voyage avec tes billets d'avion, un boucher là-bas qui va s'occuper de ta viande pour la pacter pour que tu puisses la ramener ici au Québec, qui va être légal pour passer dans l'avion. C'est de plus en plus facile. Et
Pourquoi tu dis qu'on va assurément être tiré, selon toi, avant
de
continuer?
Il n'y a pas beaucoup de demandes. Il n'y a pas beaucoup de demandes des non-résidents.
À ce point-là, OK.
Oui. Il n'y a pas beaucoup de demandes parce que les gens ont dans leur imaginaire que ça vaut 20 000 $ à la chasse là-bas. Puis c'est pas le cas. Il y a des pourvoyeurs là-bas, là, très, très, très facile à trouver en faisant une petite recherche rapide ou des agents ici au Québec qui nous bookent là-bas. En un claquement de doigts, là, vous voulez aller à chasse au Texas, écrivez-nous, on va vous mettre en lien avec quelqu'un dans l'industrie qui va vous amener là-bas, qui parle français, qui va vous organiser vos affaires sans aucun problème. Puis d'autant plus que quand on regarde aujourd'hui les prix des chasses dans l'Ouest canadien, parce que c'était souvent notre échappatoire, les Québécois, quand on voulait, soit bonifier notre saison ou aller faire quelque chose d'un petit peu plus exotique, aller ramasser d'autres animaux ou d'autres viandes, mais c'était notre option. La Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, c'est rendu cher en tabarouette. Pour le prix d'un chevreuil en Saskatchewan, t'es en Afrique ou au Mexique ou en Argentine, toutes dépenses incluses, avec des buffets ou encore de la bouffe 5 étoiles, puis tu vas vivre un trip complètement mongol. Donc, il y a de plus en plus de gens qui cherchent ces opportunités-là. Tu sais, dans le Maryland, présentement, là, c'est un autre exemple, là, ils cherchent à contrôler le cheptel de cerf de Virginie, qui est beaucoup trop grand là-bas. La réglementation, là, attache ta tuque, c'est 12 cerfs de Virginie par chasseur. Parce qu'ils doivent dropper le cheptel. Fait que des Québécois qui s'organisent en gang, qui se prennent un trailer réfrigéré, qui se louent une maison au Maryland, qui vont se prendre des tags là-bas, qui vont à la chasse, il y en a quand même pas mal.
Mais quand tu reviens, les douaniers frontaliers, ils t'achalent-tu un peu avec ta viande?
Absolument pas.
Si même à 12?
Non, si tu as préparé ta viande correctement, il n'y a aucun problème. Il y a une réglementation, il y a une façon de préparer la viande. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, il y a des bouchers maintenant aux États-Unis partout qui sont rendus spécialisés à te préparer ta viande pour traverser les douanes. Puis je t'encourage fortement de faire affaire de cette façon-là. Prends-toi un trailer réfrigéré, fais préparer ta viande, tu vas traverser les douanes en un claquement de doigts. Assure-toi avant de partir, de prendre les bonnes informations au niveau du transport des armes à feu si tu décides d'amener tes propres armes à feu aux États-Unis. Pour les autres pays, je dirais que de plus en plus, ce qu'on a, c'est qu'on a des forfaits accessibles, puis très accessibles financièrement parlant, qui incluent les armes à feu. Fait que ça enlève ce casse-tête-là d'amener l'arme à feu en Afrique, en Argentine, en France, au Guatemala ou peu importe où. Ils les fournissent sur place, c'est inclus. Dans les... Mais aux États-Unis, faites juste vous informer, faire la bonne paperasse pour traverser vos armes. Votre viande, si vous faites affaire avec un bon boucher ou vous suivez la réglementation, désossez complètement, sortez la cervelle de l'œil, etc., il n'y a aucun problème pour amener la viande des États-Unis.
Monsieur le Président du groupe Aventure Chasse-Pêche, pour des gens qui seraient peut-être intéressants à embarquer avec vous pour le fameux voyage en Afrique en 2025 ou encore pour retrouver tout votre contenu, on peut vous retrouver à quel endroit, monsieur?
Le plus facile, c'est la plateforme web d'Aventure Chasse-Pêche. Tu demandes à Google, hein, tu tapes Aventure Chasse-Pêche, tu vas tomber sur notre site web. Il y a un gros carré jaune à gauche qui est marqué Afrique du Sud. Toute l'information est là. Il y a même un formulaire que tu peux remplir pour demander d'informations. Patrick Daigle ou encore Priscille et nos agents qui sont responsables de ça vont vous contacter ou sinon, parlez-nous par Messenger si vous êtes « Ouais, ça me stresse un peu ». On a une couple là, qui était très, très, très anxieux, qui n'était jamais sorti du Québec, qui n'avait jamais eu de passeport de leur vie, qui ne parlait pas un mot en français, pour qui c'était impossible de vivre le Hakuna Matata, qu'on a amené là-bas.
Mais ça, j'adore ça. Bravo.
C'est très cool. Hey Martin, peux-tu faire quelque chose pour moi?
Oui, je vais dire salut.
Dis salut, puis prends-en soin en Afrique, OK?
Inquiète-toi pas, je la ramène tout de suite. Sais-tu comment on l'appelle là-bas?
Non.
Les guides là-bas l'appellent le Golden Retriever. Si un client qui fait un mauvais tir sur un animal, c'est souvent elle qu'on envoie pour aller faire le dernier tir sur l'animal parce qu'elle est très rapide et elle tire de manière très précise. Fait que ça, souviens-toi-en, dans ta vie, ça peut te servir à un moment donné si t'as m'en maudit après toi, cours en zigzag.
Ça risque d'arriver, ça me côtoie. Hey, je te souhaite de passer un beau voyage puis amusez-vous, les amis.
Salut, Martin!
Salut, bye-bye. 13h47, on s'arrête et on vient. La chronique chasse-pêche.